Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
On est de retour dans le segment Habs Radio avec Éric Bélanger tous les lundis et tous les vendredis, Denis Gauthier tous les mardis, tous les jeudis, et Simon Snake Boisvert tous les mercredis. 5 revers de suite pour le Canadien, défaite de 3-2 hier soir à Anaheim. Éric, bonjour.
Salut.
Rien ne va plus. Rien ne va plus.
On est de retour au mois de novembre.
On est de retour au mois d'octobre.
Octobre et novembre, oui.
C'est comment tu as vu les trois buts marqués par les Ducks d'Anaheim? Parce qu'on en parle depuis un matin là, avec Alex. Là.
Ouais.
Mais puis, longue histoire courte, évidemment, quand tu dis on est de retour, on dirait qu'il y a beaucoup de confusion dans la zone défensive. On dirait qu'il y a des mauvaises lectures de jeu, des manques d'efforts, des manques de concentration. Parle-nous des buts des Ducks.
Le premier but de McTavish, ce que je remarque depuis plusieurs matchs, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans la zone défensive sur le repli défensif. Je te donne un exemple. Sur ce but-là, Armia était le joueur d'avant en position de support en bas de territoire. Evans était perdu. Il n'a pas remplacé Armia à sa position. Pezzetta aurait dû être à gauche, Evans était rendu à gauche, on a laissé de l'espace à McTavish, boum, c'est le but. Moi, j'ai toujours dit que cette zone grise de confusion-là, on peut l'enlever en revenant dans notre territoire, où ce que les ailiers arrêtent dans l'enclave, protègent la maison. Même si c'est pas le joueur de centre qui est premier en repli défensif, on peut attendre quelques secondes pour qu'il revienne. Ça enlève toute la confusion. Tu veux pas voir Lainé en bas de territoire. Tu veux pas voir les ailiers, les Caulfield, les Slafkovský en bas de territoire. Les joueurs de centre sont les meilleurs dans cette position-là et ils sont habitués d'être là. Donc, moi, je trouve que la première erreur, c'est qu'on voit beaucoup trop souvent les ailiers en bas de territoire, en support défensif avec les défenseurs. Puis, on l'a vu sur le but de McTavish, on a laissé de la place à McTavish le long de la rampe pour prendre son lancer. Il n'y a eu aucune pression et ça a été le premier but.
Le deuxième but, mauvaise lecture de Kirby Doc qui dit qu'il va aller prêter main forte à David Savard, qui se fait battre de vitesse à l'extérieur. Et là, au lieu de prendre son homme, il dit non. Et encore une fois, deux contre un contre le même gars. Tu vois le repli défensif de Patrick Laine. Évidemment, Martin Saint-Louis n'a pas apprécié parce que Laine a eu juste une présence sur la patinoire en troisième période.
Oui, mais je pense que c'était le dernier clou dans le cercueil de Laine dans cette situation-là. Mais il était vraiment loin là, dans ce jeu-là. Je pense que David Savard se fait brûler sur le long de la rampe, ce qui arrive beaucoup dernièrement. Puis la lecture de jeu de Kirby Dach est atroce. Le joueur sur le long de la bande, on fait une couverture en double. Et puis Kirby Dach a juste resté entre les deux pour essayer de couvrir l'intérieur, d'empêcher la passe à Vetrano, ce qu'on n'a pas fait. Aucune lecture de jeu, aucune concentration. C'est comme on s'envoie deux gars sur le même joueur. C'est quoi ta lecture de jeu? Tu penses que pour personne en arrière, la rondelle sur le long de la rampe, elle va s'en aller où? En avant de l'enclave, où ce que le but a été marqué. Pour moi, ce jeu-là, je blâme pas autant Laine. Oui, il aurait pu bouger ses pieds et essayer de venir aider, mais il était trop loin dans cette situation-là. C'est vraiment Savard et Kirby Dach. Pour moi, sur ce but-là, qui sont responsables, mais Kirby Dach, sa lecture a été terrible là-dessus.
Éric, moi, j'ai dit plus tôt ce matin, tu me corrigeras si j'ai tort, là. Le Canadien n'a pas de deuxième trio. Là. Il va falloir qu'on arrête. Là. Un deuxième trio qui se présente là, 10 matchs sur 50, là, c'est parce que tu n'en as pas. Point à la ligne. Newhook, c'est un joueur de troisième trio. Kirby Dach, il n'a ni l'intelligence, ni la volonté sur 200 pieds, ni la capacité de gagner des mises en jeu pour être un deuxième joueur de centre efficace sur une équipe qui va rentrer en série. Tu as besoin de le libérer de ses responsabilités-là, selon moi.
Mm-hmm.
Et Patrick Laine, c'est un paresseux comme ça, se peut pas. Il joue seulement quand ça lui tente. En fin de compte, ils n'ont pas de deuxième trio. Moi, j'ai dit à Alex, dans la saison morte, là, ou d'ici là, ou avant le début de l'année prochaine, le Canadien doit mettre Dach à l'aile, Demidov à l'aile, et aller chercher un joueur de centre. C'est moi ma façon de regarder ça. Toi, t'en penses quoi?
Ben moi, Kirby Duck, je suis vraiment pas un fan de lui. Je pense qu'il a joué combien de bons matchs cette année? 5, 6? Quand ils ont eu du succès sur la route. Moi, si je suis l'entraîneur des équipes adverses sur la route, là, je peux te garantir qu'à toutes les fois que ce trio-là est sur la glace, j'envoie mon meilleur trio. Puis c'est ce que les équipes adverses font contre eux autres. Ils sont pas capables d'avoir de bonnes lectures défensives. Leur work ethic, comment ils se comportent dans leur effort est pas assez bon. Donc, c'est un trio qui est facile à jouer contre. Pense pas, en ce moment, ce trio-là est le quatrième trio du Canadien. On l'a vu dans le temps de glace hier, Evans a beaucoup plus joué, Armia ont joué des bons matchs, Dvorak, Anderson, Gallagher ont eu de meilleurs matchs que ce trio-là. Mais moi, Kirby Duck, là, on a échangé Romanov pour lui. Romanov a joué 30 minutes avant hier ou il y a 3 jours. Est-ce qu'on est en train de regretter cet échange-là? Moi, Kirby Duck, à long terme, je vois pas qu'il va être un top 6. J'aime pas son IQ, j'aime pas son niveau d'effort, j'aime pas sa constance. Oui, il est grand, il a des bons flashs, mais tu veux pas un gars comme ça avec Demidov. Avec Demidov, tu veux un joueur de centre élite. Moi, je pense que ça va être avec Suzuki et Caulfield que je le mettrais. Mais ça te prend un deuxième trio au complet. Parce que Patrick Laine, là, faut pas se faire de cachette. C'est ce qu'on s'attendait de voir. C'était le fun au début. Il a marqué des buts en avantage numérique. Tout le monde était content. Mais c'est ce qu'on avait entendu partout à travers la Ligue. Puis ce qu'on voit en ce moment, ben malheureusement, c'est ce qu'on a vu tout au long de sa carrière.
En conversation avec Éric Bélanger de la poche bleue, blanc, rouge, le troisième but. Le but de la victoire.
Oui.
Alex voyait, disons, il se demandait qu'est-ce qu'il faisait Arber Jacky sur ce but-là. Moi, je me demande pourquoi il y a deux joueurs sur un joueur des Ducks devant le but qui donne, on oublie ça, le man-to-man à ce moment-là parce qu'il y a deux contre un. Pour moi, oui. Encore une fois, c'est confusion totale dans la zone défensive. Mauvaise lecture du jeu. Toi, tu l'as vu comment?
Moi, je l'ai vu que Jacky, il faut qu'il mette les freins. Il faut qu'il arrête et qu'il s'en aille sur le porteur de la rondelle le plus vite possible, enlever le temps et l'espace. Jacky, en man-to-man, là, surtout comme le Canadien joue, le défenseur, normalement, a toujours le porteur de la rondelle. Il l'identifie le plus rapidement possible pour que les 4 autres joueurs sur la patinoire sont capables d'identifier leurs joueurs,
oui.
Leurs responsabilités. Jacky a donné trop de temps et d'espace à Killorn et après ça, ça allait créer de la confusion. Dak est revenu, Dak aurait pu mettre de la pression, mais il était à l'aile, donc il a arrêté dans son environnement pour prendre le défenseur qui s'en venait en deuxième vague. Mais sur ce jeu-là, il faut que Jacky mette les freins, enlève le temps et l'espace et mette de la pression à Killorn pour que les autres joueurs sur la glace peuvent identifier leurs joueurs. Ça n'a pas été fait et là, la confusion totale et c'est le but gagnant. C'est ce que je te dis, Tony, depuis plusieurs matchs. On a de la confusion, c'est comme si on manque de concentration, on n'identifie pas les bons joueurs sur la patinoire, on donne trop de temps et d'espace. Puis sur ce but-là, moi j'aurais voulu voir Jacky mettre de la pression beaucoup plus rapidement pour que Killorn se doive de faire un jeu là-dessus.
Mais lui, il se dit, puis je comprends ton point de vue, puis tu partages l'opinion d'Alex, c'est parfait. Lui, il se dit, si je m'en vais sur lui, McTavish est ouvert.
Ben, McTavish, écoute, là, on avait Carrier et on avait Dvorak qui sont allés devant le filet sur le même joueur. Je pense que McTavish arrivait en bas de territoire. Je pense que ça aurait été... on aurait pu l'identifier rapidement. Et vu qu'il n'y a pas eu de pression, Killorn a eu tout le temps du monde de prendre un lancer avec la vision de Montembeau qui a été obstruée. Donc, moi, c'est sûr que dans mes consignes, quand je suis entraîneur, le défenseur, c'est automatique. Faut que tu prennes le gars avec la rondelle le plus vite possible.
Éric, sur la situation, là, bon, Jacky prend le porteur du disque, parfait. Tu vois Dvorak qui est en repli défensif, qui prend le joueur, qui se dirige vers le devant du but. Carrier, dans cette situation-là, reste devant le but. Aurait-il dû aller vers le coin pour prendre McTavish? Quitter le devant du filet?
McTavish n'est pas tant dangereux. Là.
Non, mais sachant qu'il joue un man-to-man.
Oui, bien là, à ce moment-là, c'est facile d'identifier. Le fait qu'on a donné du temps et de l'espace, là, on vient tout mêler, puis là, c'est quoi qui va arriver? Va-tu faire une passe? Puis personne n'a identifié le joueur le plus dangereux dans cette séquence-là. C'était Killorn avec du temps et de l'espace d'arriver dans l'enclave puis prendre un lancer avec du trafic devant Sam. Donc, le gars le moins dangereux sur cette séquence-là, c'était McTavish. Si tu donnes la rondelle à McTavish, ça, c'est facile. Carrier peut laisser le devant du filet ou Dvorak. Moi, j'aime mieux que le défenseur reste en avant du filet dans une situation de même.
Ouais.
Mais le Canadien, il ne joue pas de cette façon. Mais McTavish était le joueur moins dangereux sur la glace à ce moment-là.
OK. On va parler de Samuel Montembeault. On se demande... Je te dis pas que Samuel a été faible parce que le premier but, il est dévié.
Oui.
Le deuxième but, évidemment, le gars, il est tout seul.
Oui.
Le troisième but, il a la but voilée comme ça se peut pas.
Oui.
Mais on parle de faire des gros arrêts quand ton équipe en a besoin. Puis, les Canadiens ont gaspillé une avance de 2-0. Écoute, moi, je pense que même si Samuel aurait été bon, excellent hier, c'est Dobège qui commence quand même à San Jose parce que le Canadien joue le lendemain à Los Angeles. Donc, pour moi, le résultat, c'est Dobège quand même qui va jouer demain. Mais ma question pour toi est, si Dobège goal tout un demain soir à San Jose, est-ce que tu reviens avec Dobège, deuxième match en 24 heures?
Non, moi, je pense que ça va être Sam. C'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de gardiens puis, qui vont être dans le filet, dans un back-to-back, dans un dos-à-dos. Ça va être Sam. Je pense que le plan était déjà fait cette semaine, que ça allait être Sam hier. Ça va être Dobège demain et ça va être Montembeault contre les Kings. Mais sur le troisième but, oui, il a la vue violée, mais quand on parle de Sam ou de peu importe le gardien, peut-être qu'il fait cet arrêt-là, puis le match est 2-2, puis le Canadien est capable de remporter pareil. Parce qu'on s'est présenté en première période, on a 10 lancés contre 6, le Canadien dominait 2-0, puis après ça, on est tombé flat, plus d'énergie, plus d'âme. On était comme ses talons, puis Sam, c'est un peu comme le reste de l'équipe en ce moment. L'équipe se cherche. Les arrêts clés au bon moment, mais sont peut-être moins faits qu'avant, quand on avait du succès. Donc, je pense que c'est juste une accumulation de tout le monde devant lui aussi.
On attend Martin Saint-Louis après le match à propos de Patrick Laine.
Ben, je trouvais pas qu'il aidait l'équipe à ce moment-là. Fait que c'est une décision que tu prends.
Le deuxième trio, est-ce que c'était vraiment lui ou le deuxième trio en général? Tu sentais que ça ne fonctionnait pas comme tu voulais? Est-ce qu'on a vu New York aussi se promener sur d'autres trios?
Oui, c'était en général. C'est pas un match que je trouvais qui nous aidait d'un bord ou de l'autre.
Est-ce que Martin Saint-Louis a fait ce qu'on appelle du hard coaching en fin de match pour prendre la décision, évidemment, de clouer Doc et Laine au banc? Laine au banc, à l'exception d'une présence en troisième période. Doc et Laine au banc, quand le Canadien ont enlevé Samuel Montembeault pour jouer à 6 contre 5. Est-ce que c'est ça qu'on appelle du hard coaching? Puis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu as réagi de la même façon?
Ben oui, j'adore ça. Martin l'a pas fait depuis qu'il est à Montréal de faire des sorties devant les médias de la sorte. Moi, j'adore ça qu'il ait cloué ces deux joueurs-là au banc. Il l'a pas assez fait en début d'année. Là, c'est correct qu'il le fasse. Il y a des joueurs qui jouaient beaucoup mieux et qui méritaient d'être sur la patinoire, même si c'est pas les gars, ça devrait être Laine, ça devrait être Dak dans ces situations-là. Mais de la façon qu'il se comporte, de la façon qu'il travaille, il mérite pas d'être sur la glace. Puis moi, là, j'aime bien mieux avoir une situation où c'est les Armia, Gallagher, peu importe, les autres joueurs qui le méritent, qui sont sur la glace, puis je vais vivre avec les conséquences parce que ça, là, quand tu parles de bâtir une culture puis de la façon que ça va fonctionner à Montréal, on n'acceptera pas les demi-mesures. Puis moi, j'ai adoré ce que Martin a fait en parlant de ce trio-là qui nous en donnait pas assez. Il les a protégés beaucoup depuis le début de la saison. Donc, moi, je suis en accord à 100% avec ce que Martin a fait et qu'est-ce qu'il a dit.
OK. Rien ne va plus. 5 défaites de suite, là. Est-ce que... Qu'est-ce que tu fais pour remonter de morale? Est-ce que tu penses que les dernières 5 défaites, là, le Canadien s'en va en... sont en trouble? Là. Est-ce que tu vois une solution à court terme? Là?
Non, ça va être à l'interne. Je pense pas que Kent Hughes va aller chercher, va faire une transaction de panique. Je pense qu'on va continuer à suivre le plan. Je pense que le dernier mot est venu fausser la donnée pour plusieurs personnes, dont nous, parce que le Canadien a gagné de très, très gros matchs contre de bonnes équipes. Mais je pense que le fait que le Canadien ait été une journée ou deux en série, je crois pas que ça va arriver parce qu'il y a trop d'équipes devant eux qui jouent bien. Les Wings, Ottawa, il y a Tampa qui est là. Il y a tellement d'équipes. Les Islanders qui ont gagné 6-7 matchs de suite. Moi, je pense que le Canadien s'en va vers le bas, malheureusement. Là, on aura des décisions à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec nos 4 joueurs autonomes? Armia, Evans, David Savard, et puis Dvorak. Savard a beaucoup ralenti. Moi, je pense que c'est le temps d'essayer de maximiser ce qu'on est capable d'avoir contre lui. On a vu que Peterson à Vancouver a rapporté un choix de première ronde. Ici, avec Granlund, un choix de première ronde. Donc, je dis pas qu'on va avoir un choix de première ronde, mais je pense que le marché est très hot en ce moment. Si on n'est pas capable de s'entendre avec Evans, Armia, Savard et
Dvorak... Tu veux dire J.T. Miller à Vancouver, là?
Oui, oui, on est capable, on était capable de maximiser un choix de première ronde pour le défenseur des Penguins de Pittsburgh.
Lord Peterson.
À Vancouver. Qui a donné un choix de première ronde à Pittsburgh et ici aussi à Dallas. Donc, ça coûte cher en ce moment de chercher un défenseur de ce calibre-là. Donc, est-ce que David Savard, on est capable de. Moi, je pense qu'il faut vraiment regarder toutes les options. Le seul que je verrais peut-être, c'est Evans à un prix raisonnable. Mais en ce moment, pour moi, toutes les cartes seraient sur la table si j'étais Kent Hughes.
Merci beaucoup, Eric. On se parle de nouveau vendredi.
Merci, les gars.
Merci, bonne semaine. Chum. Le voilà.
Bye.